Vous écoutez
RMC. RMC.
C'était vraiment, c'était nul. C'était nul sur tous les, de tous les points de vue, quoi. Mais on peut pas faire plus nul.
La crise de la soixantaine.
Oui, moi j'en ai marre. J'en ai ras-le-bol.
Eh oui, il en a marre, notre ami Christophe Cessieux. Pas du tout.
Papy Zanin, hein. Tati Daniel, je sais pas qui là.
Alors, est-ce dû à la crise de la soixantaine, cette petite pique qu'il va vous adresser, nous adresser aujourd'hui? Christophe, tu veux nous parler du Vendée Globe?
Ben oui, parce que je sais pas si, comme moi, vous adorez les histoires d'ouragans dans les océans australes, les récits de marins pris dans des tempêtes homériques, avec des vagues gigantesques, un océan rendu blanc sous l'effet du vent et des marins qui ne doivent leur salut qu'au sacrifice d'autres marins partis à leur recherche dans des conditions incroyables pour tenter de les sauver. Si comme moi, tout cela vous passionne, eh bien, vous devez être bien déçu ces derniers temps, parce que le Vendée Globe 2024, cette course autour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance, eh bien, n'a plus vraiment la même saveur cette année que celle des éditions qui l'ont précédée. À croire que sous l'effet du réchauffement climatique, les tempêtes auraient déserté les océans pour gagner la Terre, nous laissant, nous, justement, pauvres terriens, en mal de récits de sauvetage incroyables. À croire aussi que les bateaux conçus ces dernières années par les architectes navals seraient capables désormais de résister à tous les tsunamis des océans de la planète. Et le résultat, eh bien, c'est que cette formidable course qui, durant les précédentes éditions, nous avait tenu en haleine, ne passionne plus vraiment les foules et a du mal à convaincre les rédactions de leur accorder une place digne de ce nom. Dans le journal L'Équipe, qui est pourtant la référence en matière d'actualité sportive, pas une ligne sur le Vendée depuis 3 jours. Les attachés de presse des différents concurrents ont beau faire la danse du ventre pour vendre les histoires de leurs navigateurs aux reporters chargés de relater la course, ceux-ci ne parviennent pas à convaincre leur rédacteur en chef. Coco, tu me sonneras lorsqu'il y aura un dématage au fin fond du Pacifique, que les marins auront noyé leur Starlink et qu'ils seront en perdition à cheval sur la coque retournée de leur rafio. Là, ça m'intéresse pas. Pour le moment, ta course, on s'en tape. Les trains qui arrivent à l'heure et les bateaux qui flottent, c'est pas mon truc. Et oui, effectivement, pas facile à vendre, une épreuve où la quasi-totalité des concurrents est encore en course, alors justement que l'on vient de dépasser la moitié du parcours. Heureusement, voici que se profile à l'horizon un moment béni pour les navigateurs et leurs attachés de presse. Ce moment de grâce, c'est la période des fêtes. Ce moment où la plupart des compétitions s'arrêtent net, laissant journalistes et passionnés de sport dans une détresse totale, sans plus rien à lire, ni écouter, ni même regarder. Et dans ces moments-là, Vlatipak, le Vendée, renaît de ses vagues. Et oui, quand on ne sait plus comment remplir ses émissions, que tous les titulaires sont partis jouer au golf en Provence ou faire du ski dans les Alpes, la petite histoire du réveillon de Noël de la navigatrice qui a laissé ses enfants seuls à 8000 km de là, eh bien soudainement se met à passionner les foules et les rédacteurs en chef. Et si en plus de ça, une petite tempête de derrière les fagots venait dans les jours qui viennent à secouer la flotte et réveiller les marins, le Vendée Globe retrouverait, comme tous les 4 ans, une place digne de ce nom dans les médias du monde entier. Alors, vive les tempêtes et vive Noël.
Ok, merci Christophe. Qu'avez-vous envie d'ajouter? C'est vrai que le Vendée Globe, alors je précise tout de même parce que ça reste du sport, que Charlie Danin est toujours en tête. Ils sont 3 skippers
C'est difficile.
Au milieu du Pacifique, ils viennent de passer le point Nemo, mais c'est toujours Charlie Danin qui mène la flotte. Derrière lui, Johan Richomme et Sébastien Simon.
Le point Nemo, c'est l'endroit le plus éloigné de toute Terre.
Exactement. Christophe a un petit peu raison. C'est vrai que je sais pas comment il pourrait faire pour que ça intéresse plus. Je pense qu'il souffre de petites choses. C'est que les marins qui participent au Vendée Globe sont un peu moins médiatiques et charismatiques qu'une certaine génération de marins, et les Franck Camas, les Perron, les Gabart, les Coville, les Desjoyaux, tout ça. Ça, c'est indéniable. Et je pense que ça va s'accentuer, ce désintérêt, entre guillemets, pour le Vendée Globe. C'est qu'il y a deux des marins les plus emblématiques français qui sont partis faire le trophée Jules Verne hier et avant-hier. Et que eux.
Gabart et Coville.
Et que eux, s'ils battent le record du monde pendant que les autres sont encore en mer, ils vont attirer l'aspect médiatique.
C'est encore pire. En fait, ce qui m'a toujours plu dans le Vendée Globe, c'est le début, c'est le départ.
Ouais,
après, c'est difficile à suivre.
Bien sûr, c'est surtout les sauvetages.
Mais c'est vrai qu'en plus, la publicité qui a été faite par rapport au confort accentué, je suis pas sûr que ça.
Le mec qui commande le McDo pour ses enfants avec la Starlink, ça a pas aidé. Franchement, au côté mythique de l'époque.
On suit des aventuriers. Maintenant, on suit des mecs qui commandent sur Uber.
En même temps,
ils se font. En même temps, c'est l'image que ça donne.
Ils se font brasser comme comme des brutes. Ils portent des casques, des ceintures de sécurité. Il y a un bruit incessant dans leur bateau.
Franchement, le problème, c'est que pour le
grand public, bah, tout va bien pour eux. Ils regardent la télé, alors que
ça raconte, c'est faux, mais c'est l'image.